Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Michael Cimino. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Michael Cimino, réalisateur vraiment extraordinaire. Alors, il est peut-être moins connu que Scorsese, que Coppola, que Spielberg, mais il a fait des films qui ont une qualité incontestable et je dirais presque unique. Vous avez un historien du cinéma qui a intitulé son ouvrage, il y a une vingtaine d'années, « De Griffith à Cimino, à Cimino ». Griffith, donc, c'est le grand metteur en scène du muet qui a vraiment créé la grand-mère du cinéma. Et Cimino, donc, a fait des films qui sont à retenir pour l'histoire du cinéma elle-même. Alors, il n'a fait que 7 films. Quand on compare avec Coppola, avec Spielberg, avec Scorsese que je viens de citer, ils ont fait des dizaines de films. Et Cimino n'a fait que 7 films. Alors, le problème, c'est que quand on les cite, il y en a 2 qui vont sortir du lot de manière très très forte. Donc, les films qu'il a tournés, le premier, c'est Le Canardeur, avec Clint Eastwood, qui a été tourné en 1974. Puis, Voyage au bout de l'enfer, 1978. La Porte du Paradis, 1980. L'Année du Dragon, 1985. Le Sicilien, 1987. La Maison des Otages, 1990, et le dernier film, The Sun Chaser, 1996. Alors, ce film, Voyage au bout de l'enfer, est le plus connu de sa filmographie. Mais La Porte du Paradis est aussi un film qui fera date dans l'histoire du cinéma, même s'il a ruiné la maison de production, parce que il y a eu des dépassements très forts qui ont été faits par Michael Cimino. Donc, c'est un réalisateur vraiment exceptionnel. De la trempe des meilleurs, sauf que il a été limité par des problèmes de production, par des problèmes de crainte à la suite de ces problèmes des producteurs d'investir dans ces films, dont 7 films. Alors on va essayer de les de reprendre, mais en donnant une petite idée de sa carrière, puisqu'en fait Michael Cimino va s'engager d'abord dans la publicité. Et il va faire des publicités pour la télévision. Donc c'est déjà une formation particulière. Vous avez beaucoup de réalisateurs qui se sont formés à travers les courts-métrages, qui se sont formés en tant qu'assistant réalisateur. Et lui s'est formé comme réalisateur de publicité. Ce n'est pas déshonorant et ça peut permettre d'avancer. Et à partir de là, il va trouver la possibilité d'être recruté comme scénariste. Et en tant que scénariste, il va... En particulier, il a fait quelques scénarios, mais je retiens seulement celui de Magnum Force. Alors Magnum Force de Ted Post, c'est quoi? C'est le deuxième volet de l'inspecteur Harry. Si vous connaissez la saga de l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, il y a donc le premier qui s'appelle Dirty Harry, l'inspecteur Harry. Après, il y a Magnum Force. Et il y en a 3 autres, dont l'un a été réalisé par Clint Eastwood, qui sont vraiment de très très bons films. Alors, on ne va pas reprendre la carrière de Clint Eastwood, on en avait parlé déjà. Mais il avait été traité à l'époque de droitiste, d'extrême droite, de fasciste, etc. Avant que la critique reconnaisse, à partir des années 80, ses qualités de réalisateur, au-delà même de la qualité d'acteur. Et aujourd'hui, Clint Eastwood a une filmographie aussi extrêmement impressionnante. Quoi qu'il en soit, Clint Eastwood est déjà célèbre, et ce petit scénariste, finalement, lui plaît. Et il va alors lui offrir la capacité de tourner son premier film. Et son premier film s'appelle Le Canardeur. Alors, toujours pareil, quand vous avez les films avec les titres américains et les titres français, vous avez généralement une stupidité dans les titres qui sont présentés au public français. Donc là, ici, il s'appelait Thunderbolt et Lightfoot, c'est-à-dire, si je cherche bien, voilà, Tonnerre, et Pied léger. Alors, Pied léger, pourquoi Pied léger? Parce que Le personnage joué par Jeff Bridges est un petit peu un jeune délinquant, un petit peu à la dérive. Et on peut aussi traduire pied de biche. Bon, donc il y a des hésitations qui peuvent être faites ici. Quoi qu'il en soit, on peut appeler cela un road movie. Vous savez que les Américains sont spécialistes du road movie, avec des acteurs qui sont en voiture et qui traversent les États-Unis. Donc là, le but de ce braqueur de banque, je dirais, classique, qui est Clint Eastwood, c'est de retrouver une somme qu'il a cachée après un hold-up. Et il tombe par hasard sur le personnage joué par Jeff Bridges, qui est un petit peu tout fou. Ils vont avoir des relations au départ un petit peu difficiles, et puis cela va s'améliorer. Alors, le but donc, de Clint Eastwood, c'est de trouver ce magot qui a été caché derrière le tableau d'une école, pour être précis. Et il est poursuivi par deux anciens complices qui veulent se venger du fait qu'il les aurait trompés. Alors, les complices, c'est George Kennedy, qui est un acteur de second rôle souvent présent, à partir des 12 salopards jusqu'à 747 en péril, etc. Et on a Geoffrey Lewis, qui est un acteur en permanence présent dans les films de Clint Eastwood. Vous avez toujours, chez les grands réalisateurs, ces seconds rôles auxquels ils sont attachés et qui vont apparaître dans des dizaines de films. Là aussi, ça vaut pour John Ford, ça vaut pour d'autres réalisateurs, Claude Chabrol par exemple. Et inutile de les citer tous, vous avez cette équipe qui apparaît en permanence. Alors le film a été accueilli favorablement, mais sans être considéré comme un chef-d'œuvre. Mais je vous recommande, si vous pouvez le voir, Le Canardeur, donc 1974, de Michael Cimino, bien sûr. Il y a des qualités, il y a de l'humour, il y a un bon scénario, et c'est un film qui a quand même un intérêt aujourd'hui. Donc ce film s'appelle Le Canardeur, et on va écouter la musique.
I'd go back home, but the countryside has changed so much I'd surely end up lost. Have remembered names and faces so far in the past, on the other side the bridges that were burned once they were crossed. Tell me why, where does the fool go when there's no one left to listen to a story without meaning that nobody wants to hear? Tell me where does the fool go when he knows there's something missing? Tell me where do I go from here? Where do I go from here to get back home, where my childhood dreams and wishes still outnumber my regrets? Get back to a place where I can figure on the odds, have a fighting chance to lose the blues and win my share of bets. Tell me where does the fool go when there's no one left to listen to a story without meaning that nobody wants to hear? Tell me where does the fool go when he knows there's something missing? Tell me where do I go from here? Where do I go from here? Tell me where does the fool go when there's no one left to listen to a story without meaning that nobody wants to hear? Tell me where does the fool go when he knows there's something missing? Tell me where do I go from here? Where do I go from here? Oh, tell me where does the fool go when there's no one left to listen to a story?
Et le deuxième film de Michael Cimino, c'est rien moins que Voyage au bout de l'enfer. Alors, Voyage au bout de l'enfer, a un titre original. Toujours pareil, je vous l'ai déjà dit souvent, cette opposition entre le titre original et le titre français qui est nul à côté. C'est The Deer Hunter, c'est-à-dire le chasseur de cerf, parce qu'il y a deux scènes de chasse au cours de laquelle Robert De Niro et ses collègues, mais c'est De Niro qui est vraiment le bon chasseur, les autres sont vraiment un petit peu à la dérive, et il va être confronté à deux moments. Avant la guerre du Vietnam, il va traquer un cerf, il va le tuer, carabine à lunettes, classique pour cette chasse. Et ensuite, au retour du Vietnam, il va aligner la lunette sur le cerf et puis il va tirer en l'air. Ce qui montre donc que tout ce qu'il a subi a laissé des traces. Alors on oppose généralement deux films, Voyage au bout de l'enfer et Apocalypse Now, qui ont traité du même sujet, c'est-à-dire la guerre du Vietnam. Alors parfois on dit que ce sont les premiers, non c'est faux. Le premier film de Ted Post, qui avait réalisé d'ailleurs Magnum Force qu'on citait tout à l'heure, le premier film de Ted Post s'appelle Go Tell the Spartans. Pourquoi Va dire à Sparte. En fait, les Américains ont repris les casernes, les endroits, les petits forts où étaient les Français, et au-dessus d'une entrée, il y a marqué Va dire à Sparte. Va dire à Sparte, donc c'est au moment où Romain et des Romains vont être en situation difficile et il faut dire à Sparte ce qui s'est passé. Et le français, le titre français s'appelle Le Merdier, pour vous dire combien c'est stupide. Donc peu importe ce premier film qui a un intérêt historique par le fait que c'est le premier sur la guerre du Vietnam, mais surtout dans l'opposition Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer. Alors certains considéraient que Voyage au bout de l'enfer c'était le film de droite et Apocalypse Now c'était le film de gauche. Or, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que Coppola a tourné des scènes dans Apocalypse Now qui ne sont pas si dénonciatrices que ça ou qui n'ont pas été prises comme cela. Alors Coppola, bon, c'est un grand réalisateur, un réalisateur que j'aime beaucoup, mais pour Apocalypse Now, il a joué un double jeu. Si on regarde les interviews de l'époque, à des journaux de droite, il fait un raisonnement de droite, à des journaux de gauche, il fait un raisonnement de gauche, donc il est un petit peu opportuniste. Et c'est quand même pas parfait. Voyage au bout de l'enfer, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très très fortes et qui ont été critiquées pour racisme, c'est la fameuse scène de la roulette russe. Pour rester sur l'opposition Coppola et Cimino, souvent ce qui est critiqué dans les films sur la guerre du Vietnam, c'est le fait qu'on ne voit pas l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi est loin, on s'en moque un petit peu, il est dangereux, mais on ne va pas s'apitoyer sur lui, on ne le voit pas, on ne voit pas les morts, etc. En général, il est écarté. Or, effectivement, dans Voyage au bout de l'enfer, on voit l'ennemi, mais l'ennemi qui est caricaturé. Dans Apocalypse Now, on ne le voit pas, mais il y a une thématique assez, je dirais, proche de Voyage au bout de l'enfer par le fait que, finalement, les Vietnamiens, ils peuvent être touchés par une folie plus que les Américains. Si vous regardez le sujet d'Apocalypse Now, bon, je ne vais pas y passer non plus deux heures, mais c'est le capitaine Willard, qui est joué par Michael Sheen, qui va au fond de la jungle trouver Marlon Brando, colonel Kurtz, et le tuer. Et quand, au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans la jungle, il est happé en quelque sorte par la folie du lieu. Et la folie touche Kurtz et ses hommes. Donc on peut dire, si on essaie de faire une analyse qui est non conformiste, que finalement, au fur et à mesure qu'il s'enfonce, il va vers la folie. Et la folie, ce n'est pas les Américains qui la portent, ce sont les Vietnamiens qui l'ont et qui la transmettent. Quoi qu'il en soit, donc Coppola a un film très ambigu. Voyage au bout de l'enfer, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus clair, même si on dénonce tout en comprenant. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de trois personnages, ou plusieurs personnages, comme qui sont Robert De Niro, Christopher Walken et John Savage. Robert De Niro qui était déjà connu, Christopher Walken qui a été en tête d'affiche pour la première fois. John Savage, là aussi, qui a fait des films de second rôle. Et il y a aussi John Cazale. Alors John Cazale, le pauvre John Cazale, il a toujours fait des films où il était le nul. Dans Les Parrains, c'est le frère de Al Pacino qu'il fait tuer à la fin du Parrain 2. Dans Un après-midi de chien, c'est celui qui attaque la banque avec Al Pacino. Bon, chaque fois, il a des personnes qui ne sont pas très très gâtées. Donc quoi qu'il en soit, on a au début une scène de mariage qui est époustouflante. Des scènes de mariage époustouflantes, il y en a une. Et je reviens à Coppola, c'est Le Parrain. Le Parrain, il y a une scène de mariage qui est extraordinaire au début. Et dans le genre en cérémonie, vous avez aussi le bal qui apparaît dans Visconti, dans Le Guépard. Ici, dans Voyage au bout de l'enfer, un mariage, avec des danses, des chants, on plaisante, on boit et on attend de partir pour la guerre du Vietnam. Et il y a la fiancée de Christopher Walken qui est là, qui est rien moins que Meryl Streep, dont vous voyez la distribution qui est quand même très très forte. Distribution qui donnera d'ailleurs lieu à un acteur du second rôle pour Christopher Walken. Et Chimino sera le meilleur film. Donc, le film a été très largement reconnu. Et il a cette dimension, un peu comme pour Le Parrain de Coppola, à la fois une dimension film art et essai, réflexion, et film plus commercial. Alors, le problème pour Robert De Niro, qui est Michael, c'est de sortir Nick, joué par Christopher Walken, de la folie dans laquelle il est tombé. C'est-à-dire qu'ils ont joué à la roulette russe, la scène de la roulette russe, je la rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, ils sont placés dans l'eau, dans une espèce de cage où ils n'ont que la tête qui passe pour respirer, on les sort de là et les Vietnamiens les font jouer à la roulette russe. Bon. Et la scène est très forte, De Niro demande plus de balles, 2, 3, et en réalité, en ayant 3 balles, il ne va pas se tirer sur la tête, mais tirer sur les Vietnamiens, et ils prennent les armes et ils vont s'enfuir. Alors, la réception de cette scène a été, comme je le disais, vraiment très partagée. Certains disant « oui, mais c'est une violence normale dans toute guerre », et d'autres disant « non, il ne faut pas caricaturer, les Vietnamiens n'ont jamais joué à la roulette russe ». Bon, alors comment trancher ? Je ne sais pas. Mais l'ambiguïté, elle existe, et on va d'ailleurs la retrouver à la fin. Parce que ces Américains-là, qui sont récemment Américains, hein, puisqu'ils sont avec un mariage orthodoxe, ils vont adhérer à la guerre du Vietnam, ils veulent y aller, ils veulent défendre le pays, mais quand ils sont là-bas, le poids de la guerre va leur tomber sur les épaules et ils vont revenir traumatisés. Donc, quand on dit que c'est un film de droite, ce n'est pas un film qui valorise la guerre, mais qui montre les traumatismes, un peu comme John Ford le faisait. Et donc, Michael, Robert De Niro veut aller chercher en Asie Christopher Walken, qui est devenu un professionnel de la roulette russe, et quand il le trouve, en fait, bon, mais il perd, et il se met une balle dans la tête. Et le retour de Robert De Niro est tout à fait triste, puisqu'il va ramener le corps de Nick et puis l'enterrer. Donc, un film original, un film avec des scènes très très fortes, un film ambigu, mais un film, quoi qu'on en pense, un film exceptionnel. Alors là, musique de Voyage au bout de l'enfer, nous allons l'écouter maintenant. Thank you. La Porte du Paradis, qui porte le même titre en américain, Heaven's Gate, est tourné et présenté en 1980. Alors, c'est peut-être le film le plus original. On peut considérer qu'il est supérieur à Voyage au bout de l'enfer, ce qui n'est pas peu dire. Mais il a été détruit, on peut dire, par les producteurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Mais en fait, quand il tourne ce film, il va dépenser. Donc, la société de production qui est United Artists a du mal à suivre. Et quand le film sortira, c'est un problème classique, les producteurs voudront le raccourcir et non pas laisser la durée initiale. C'est un grand classique du cinéma, le réalisateur qui veut faire un film de 2h30 et le producteur qui veut faire un film d'1h45. Pour des raisons toutes simples, quand le film sort, on peut faire plus de séances si le film fait 1h45 que si le film fait 2h30. Donc, le public est considéré par les producteurs comme ne pouvant voir que des films qui ont une certaine durée. Quand je parle d'autres films qui ont eu le même sort, hein, vous avez les 7 samouraïs de Kurosawa, là encore, dont on a parlé. Les 7 samouraïs ont été présentés à la fin des années 50 dans une version qui dure 1h30. Et une vingtaine d'années après, on a sorti la version que voulait Kurosawa et qui durait 4 heures. Dans la première version, c'était que des combats. Tandis que dans la seconde version, c'était le rapport entre les samouraïs qui passent et les paysans qui restent sur la terre. Toute une problématique qui était assez originale. Vous avez Ludwig de Visconti qui a aussi une durée réduite et puis la bonne version, entre guillemets, sortie plus tard. Même Le Grand Bleu est sorti avec une quinzaine de minutes qui manquait. Dans Les Gardes des Étoiles, Georges Lucas a rajouté des trucages dans les films anciens parce qu'il ne pouvait plus, il ne pouvait pas les réaliser au départ. Donc, cette Porte du Paradis est véritablement une catastrophe pour les producteurs qui vont, dans tous les cas, réduire la durée. Et Michael Cimino n'aura de cesse que de le remonter, avec des versions qui vont entre 3h30 et 4h. Et quand vous voyez les deux versions, celle d'environ 2h et celle qui fait 4h, il n'y a aucun rapport. C'est vrai que la version de 4h s'explique, se justifie, le montage est vraiment clair. Et on peut être un petit peu déçu quand le film est tronçonné, massacré, découpé. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'époque du western, la fin du 19e, et on reprend ce qu'on a appelé, je dirais dans les faits divers, la guerre du comté Johnson, je suis arrivé, pardon. Et en réalité, cette guerre oppose les gros propriétaires à des immigrants venus de l'Europe de l'Est. Là aussi, comme pour Voyage au bout de l'enfer, immigrants qui viennent d'Europe de l'Est et qui veulent s'incorporer aux États-Unis. Donc là, ils veulent s'installer, mais les gros propriétaires ne veulent pas de ces immigrés qui vont, je dirais, polluer leurs terres. Enfin, ils n'en veulent surtout pas. Alors, la description, c'est que finalement, il y aura plusieurs personnes qui vont s'opposer à ce massacre, et en particulier le personnage joué par Kris Kristofferson. Alors, Kris Kristofferson, c'est un acteur qui a joué beaucoup chez Peckinpah et qui est connu notamment pour l'opposition entre Pat Garrett et Billy the Kid, et de nombreux autres films comme Convoi, etc., etc. Donc, Kris Kristofferson sort d'Harvard. Alors ça, c'est une scène exceptionnelle. Là aussi, quand on a des scènes exceptionnelles comme le mariage de Voyage au bout de l'enfer ou le bal du parrain, le mariage du parrain. Ici, c'est deux diplômés d'Harvard qui sont Kris Kristofferson et John Hurt. Donc, le début, c'est une scène qui va durer une vingtaine de minutes où on voit courir les gens, les étudiants autour des bâtiments d'Harvard. John Hurt va prononcer un discours un petit peu provocateur, le discours de fin d'études, et on les voit tous joyeux, contents, jeunes. Et puis on va les retrouver une vingtaine d'années après, Kris Kristofferson devenant un marshal, et John Hurt étant, lui, du côté du syndicat des éleveurs. Et John Hurt a vraiment été laminé parce qu'il a vécu pendant 20 ans. Il est alcoolique et il est vraiment à la dérive. Chris Christopherson veut défendre les immigrants. Et il y a Christopher Walken, là encore, comme dans Voyage au bout de l'enfer, qui lui serait plutôt un tueur au service des éleveurs. Mais il comprendra, alors comme souvent c'est un scénario classique, où celui qui est au service va se retourner contre les employeurs. Une actrice qui joue une prostituée dont à la fois Chris Christopherson et Christopher Walken sont amoureux. Et elle est lumineuse, elle est extraordinaire. Comment elle s'appelle, cette actrice? Elle s'appelle Isabelle Huppert. Isabelle Huppert fait dans ce film une prestation, encore une fois, époustouflante, lumineuse, splendide. Et c'était encore un moment où elle avait plutôt des rôles marqués par le déséquilibre, marqués par la violence. Et là, encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais c'est une prestation extraordinaire qu'elle va présenter. Donc, quoi qu'il en soit, ce film est vraiment à voir, et dans sa version longue, parce que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Il est peut-être meilleur que Voyage au bout de l'enfer. Et c'est pas peu dire. Donc, Voyage au bout de l'enfer, La Porte du Paradis, film exceptionnel. Que peut faire Cimino après cela? Le Canardeur, c'était bien. Ces deux films, c'était bien. Le quatrième sera aussi un bon film. Le quatrième, c'est L'Année du Dragon, avec Mickey Rourke. Alors Mickey Rourke, ce qui est amusant, c'est qu'il faisait un petit rôle dans le film précédent, dans La Porte du Paradis. Et on le voyait quelques minutes, on le reconnaît, mais effectivement, on ne le voit pas très longtemps. Donc là, Mickey Rourke est un ancien du Vietnam qui veut lutter contre les gangs, et en particulier contre les gangs qui se trouvent à Chinatown, ce qu'on appelle les triades chinoises, qui vont être les principaux pourvoyeurs de drogue. Donc, le personnage joué par Mickey Rourke, Capitaine Stanley White, va s'opposer en particulier à John Lone, Joe Tai, qui est celui qui reprend les affaires. Il y a des discussions entre les plus vieux au début, et John Lone va intervenir. Et on comprend que petit à petit, c'est lui qui va tout reprendre et rétablir le trafic de drogue. Et donc, c'est contre lui que Mickey Rourke va lutter. Il y a des scènes très fortes là aussi, une violence, un rapport avec une journaliste qui est un petit peu sadomasochiste. Donc, un film original, un film qui n'a pas la qualité de Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du Paradis, mais qui est vraiment très bien. Alors, si je dis cela, c'est parce que les derniers films de Michael Cimino, ça va pas être terrible. On a déjà jusqu'ici Le Canardeur, Voyage au bout de l'enfer, La Porte du Paradis, L'Année du Dragon, et on arrive au cinquième film qui est Le Sicilien. Alors, Le Sicilien, il est sorti en 87. Le Sicilien, très très mauvais. Enfin, on ne peut pas dire autre chose. Alors, bien sûr, un mauvais film de Cimino est meilleur que film d'autres réalisateurs. Il y a Christopher Lambert. Alors, Christopher Lambert, déjà comme comédien, c'est peut-être partisan, mais je ne l'ai jamais trouvé vraiment extraordinaire. Et on suit l'histoire de Salvatore et Giuliano. Alors, qui est Salvatore Giuliano? C'est un délinquant, un bandit qui veut peut-être défendre les paysans, mais en même temps qui va peut-être être au service de ceux qui vont contrôler le territoire. Donc, c'est extrêmement ambigu. Alors, Salvatore Giuliano, il faut citer un film qui est vraiment fabuleux. C'est le film de Francesco Rosi. Il a fait, dans les années 60, un film qui s'appelle Salvatore Giuliano. Et pour montrer l'ambiguïté du personnage, il ne le filme que de dos. Et vraiment, ce film est extraordinaire. À côté, Le Sicilien, c'est pas ça, quoi. C'est pas la peine d'insister. C'est pas un bon film. La Maison des Otages, c'est le film suivant. En fait, c'est un remake d'un film de Willem Wyler avec Humphrey Bogart. Humphrey Bogart fait un méchant qui va s'introduire dans une maison bourgeoise après son évasion. Donc, il a dans cette maison affaire au père de famille qui est Anthony Hopkins. Alors ici, on peut dire que le duel Mickey Rourke le méchant, Anthony Hopkins le bon pour caricaturer, ça déménage. Hein, ce sont de bons acteurs et le film est bien meilleur que le Sicilien, n'en parlons plus, laissons-le de côté. Donc le film se passe à l'intérieur de la maison principalement et montre comment le père essaie d'échapper, veut récupérer une arme, etc. etc. jusqu'à ce que la police intervienne et réussisse à tuer Mickey Rourke. Donc c'est un film dont on ne peut pas dire qu'il est vraiment extraordinaire, mais qui est un bon film. Un bon film. Dernier film, en 1996, The Sun Chaser. Alors, La boucle est bouclée, c'est un road movie comme Le Canardeur. Il s'agit d'un médecin spécialiste des maladies cancéreuses qui va se trouver face à un jeune Indien qui est atteint d'un cancer. Ils vont partir sur les routes parce que le jeune Indien veut être conduit sur la terre de ses ancêtres. On croit, ou il croit que ça sera sa rémission ou sa guérison s'il rencontre un sorcier. Et effectivement, Woody Harrelson n'y croit pas trop, mais il va l'accompagner. Donc comme tout road movie, les deux personnages vont se rapprocher et vont entamer une relation plus amicale. Donc finalement, ce dernier film, The Sun Chaser, il pourrait être à voir ou à revoir, bien que, à mon avis, le canardeur soit meilleur. Donc deux road movies, au début et à la fin. Michael Cimino va donc boucler la boucle, et avec ses 7 films, il rentre dans l'histoire du cinéma, surtout ses 2 films extraordinaires, Voyage au bout de l'enfer et La porte du paradis. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Chéliane Ahamada. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.